Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emmanuel Rosfelder. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, vous avez une actualité tellement riche cet été, que ce soit discographique ou en matière de concert, que, à vrai dire, c'est difficile de trouver un commencement. On va commencer par ces 62e nuits de la Citadelle à Sisteron. Vous jouerez le 5 août prochain dans ce lieu, paraît-il, magique, dans le cloître Saint-Dominique, aux côtés de l'orchestre de chambre de Genève et un complice, puisque c'est Harry Von Beck qui dirigera, un chef d'orchestre que vous connaissez bien.
Oui, oui, Harry, on a partagé divers événements musicaux, tant en concert qu'en enregistrement, puisque mon seul disque avec orchestre, eh bien, c'est avec lui que j'ai voulu le faire, à l'Opéra de Vichy, il y a 5 ans déjà. On a enregistré précisément ce magnifique programme qui est le concerto d'Alain Juez et la fantaisie pour un gentilhomme, deux concertos emblématiques de Joaquín Rodrigo, ce formidable compositeur espagnol.
Alors quand vous jouez comme ça, bon ça c'est un orchestre et un chef que vous connaissez, mais vous vous retrouvez avec quand même un orchestre, vous avez un instrument qui est sublime, mais qui n'est quand même pas forcément adapté aux salles modernes et qui, quand il se retrouve face à un orchestre, n'a pas la puissance d'autres instruments. Comment ça se passe ?
Eh bien, c'est là qu'on fait appel notamment à la sensibilité, à l'écoute, à l'oreille attentive du chef qui va doser, on va dire, les chevaux de l'orchestre pour savoir les lâcher de temps en temps quand ils ont des parties solo et puis parfois les retenir quand la guitare procède à la mélodie principale. Et à ce moment-là, bon, bah, l'orchestre doit d'être davantage en soutien, tapis derrière, de manière à vraiment accompagner, à créer de la couleur et de l'harmonie, mais pas forcément à l'écraser. Parce qu'évidemment, une trentaine de musiciens derrière une guitare, on ne peut pas lutter. Et pour moi, bah, c'est un travail quand même qui représente un effort bien plus important que le récital traditionnel, où là, on est tout seul, donc on peut aller chercher des nuances bien plus petites. Là, on est obligé quand même d'alimenter davantage sur la corde et de laisser pousser les ongles un petit peu plus quelques jours avant.
Alors là, vous vous retrouvez avec un chef d'orchestre que vous connaissez bien, donc Harry Von Beck. Mais alors, sans citer de nom, parfois vous vous retrouvez à jouer des œuvres avec des chefs d'orchestre, ça se passe plus ou moins bien. Et puis parfois, les chefs d'orchestre attachent moins d'importance au concerto. Et encore une fois, sans citer de nom, Emmanuel Rosfelder, comment ça se passe ? Vous avez une conception de l'œuvre, vous arrivez, et lui n'a pas forcément la même. Il y a des mauvais souvenirs
comme disait De Funès, écoutez, cher ami, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Voilà, ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. Bon.
bien sûr qu'on n'a pas de conception parfois identique. Malheureusement, c'est le guitariste, c'est le soliste qui est devant, face au public, et c'est le chef qui est tourné. Alors le chef, à un moment donné, eh ben, il se doit de se mettre un petit peu quand même au service du soliste. Donc je reconnais avoir très souvent le dernier mot, parce que ce sont des œuvres que je joue depuis longtemps, qui sortent un petit peu aussi des sentiers battus, on va dire, des musiques que l'orchestre a l'habitude de jouer. Il y a du rubato, il y a des magnifiques ralentando, c'est une musique vivante, c'est une musique espagnole, c'est une musique très émouvante quand même, qui touche la corde sensible instantanément. Et moi, je connais cette musique, je la joue depuis que je suis au berceau. Donc, j'ai des automatismes que le chef n'a peut-être pas. Donc si d'aventure les chefs parfois essayent de m'orienter vers quelque chose qui pour eux serait une solution de facilité, je n'y cède absolument pas pour mettre en valeur au mieux la musique. Et avec Harry, c'est génial, parce qu'Harry, c'est quand même un nordiste, Harry Van Beck, il est hollandais, il habite en Suisse. Eh bien, je vous garantis que c'est le maestro du rubato, parce qu'il a une sensibilité exceptionnelle et je l'embrasse et je suis ravi de jouer avec lui.
Alors vous jouez donc ces deux œuvres concertantes de Rodrigo que vous avez enregistrées aux côtés de l'orchestre de chambre d'Auvergne, Harry Von Beck. Là, ce sera l'orchestre de chambre de Genève le 5 août prochain à Sisteron. Il y a à la fois pour le répertoire pour guitare, il y a un répertoire original écrit pour la guitare, puis il y a un énorme répertoire de transcription qui lui est sans fin. Là, ces œuvres de Rodrigo, elles ont été écrites bien sûr pour cet instrument. Il y a beaucoup de différences pour vous quand vous jouez des œuvres originellement écrites pour la guitare ou transcrites?
En fait, non, je ne perçois pas du tout cela comme des différences, parce que tout simplement, à travers les transcriptions, soit c'est moi qui les ai faites, soit elles existent depuis l'époque comme on disait tout à l'heure, de nos grands maestros qui étaient Andrés Segovia ou bien Lagoya. Et à ce moment-là, eh bien, à travers la transcription, on met en valeur au mieux la guitare. On fait comme si cette œuvre avait été composée directement pour la guitare. Ça veut dire que ça passe par des irrespects, entre guillemets, de texte. Parce qu'on a des petits... des astuces techniques, hein. On a du trémolo, on a les rasguado, on a le vibrato. Alors, le piano, quand on transcrit des œuvres du piano, bon, bah, le pianiste, lui, il n'a pas de vibrato. Donc, au niveau des tempi, déjà, le pianiste est obligé de jouer peut-être un peu plus vite. Alors que nous, grâce au vibrato, bon, bah, on se rapproche parfois du violoncelle ou du violon. Alors, à ce moment-là, on peut prendre un peu plus son temps. Alors, tout ça, ça amène à penser que parfois la transcription apporte un plus par rapport à l'original, et notamment pour les œuvres d'Albéniz qui viennent du piano. Très souvent, les pianistes nous disent « Ah bah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli à la guitare. Nous, bon bah, c'est dommage que ça ait été transcrit. » Et je dis « Mais pas du tout, les gars, ça vient du piano, c'est nous qui les avons transcrites, ces pièces. » Alors ça, c'est incroyable. Même les pianistes parfois croient que ces pièces n'ont pas été écrites, et notamment le très célèbre Asturias, qui est vraiment la pièce qui incarne le mieux la transcription formidable pour guitare.
Emmanuel Rosfelder, donc un répertoire gigantesque. Alors il y a du répertoire comme par exemple les œuvres pour luth de Bach ou des œuvres, la transcription à la guitare s'impose. Mais il y a des œuvres, est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimez particulièrement en tant que mélomane? D'ailleurs, ces œuvres de Bach, vous en avez enregistré certaines. Mais par exemple, sur le même disque, vous avez enregistré des sonates de Scarlatti, écrites, elles, pour le clavier, clavecin, ou plus tard transcrites, enfin adaptées au piano. Ce sont des œuvres qui sont, elles, pas originellement écrites pour la guitare. Est-ce que parfois il y a un répertoire que vous aimez énormément en tant que mélomane, et puis vous avez essayé de transcrire, ça ne marche pas?
Oui, 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 exactement. Alors, moi, je suis tourné délibérément vers la musique pianistique, orchestrale, les concertos pour piano, il y en a peu que je ne connais pas, violon, violoncelle, flûte, tout ça. J'adore tous ces instruments qui chantent, tous ces instruments d'orchestre, c'est génial. Et bon, ben voilà, on pourrait dire, mais attendez, Chopin, vous joueriez Chopin magnifiquement. Non, en fait, parce que là, on touche à quelque chose qui incarne, comme vous me le disiez tout à l'heure. On parlait de Rubinstein avec son piano. Ben voilà, quand on écoute les nocturnes de Chopin par Rubinstein, on ne peut pas les jouer avec la guitare, parce que là, on voit les fils. Parce que là, on ne peut plus enlever de notes, on ne peut plus bidouiller, on ne peut plus réoctaver, c'est-à-dire diminuer la tessiture. Ça paraîtrait totalement dénué, totalement de bon sens, tellement ça sonne bien au piano. Voilà. Alors pour le violon, c'est pareil. On ne va pas aller chercher le concerto de Tchaïkovski, on ne va pas aller chercher... des pièces de Chrysler, parce qu'il y a l'archet qui permet au son de rester longtemps, etc. Donc en fait, ce sont plutôt des pièces orchestrales qui m'intéressent de transcrire, notamment des pièces qui viennent de l'opéra, justement des pièces ou du luth, hein, qui viennent des instruments à cordes pincées et du clavecin, parce que là, on est sensiblement quand même dans la même lignée. Le clavecin, ça n'a pas 8 octaves, hein, comme le piano. Ça en a bien moins, donc on peut tout à fait gérer surtout ça, le problème de tessiture, ça c'est très très important. Et Chopin s'amuse énormément avec des sauts d'octaves, comme on pourrait dire plus simplement, le nombre d'octaves représentées dans une pièce est très importante. Nous, on n'en a que 3, donc ce serait ridicule de jouer du Chopin au piano, à la guitare, pardon. Alors voilà, donc on est limité, donc j'en écoute, je m'inspire, pour ensuite pouvoir jouer par exemple du Johann Caspar Merz, qui est un formidable compositeur austro-hongrois, qui a écrit des choses totalement dans le style de Chopin. Voilà, donc on va de même que Agustín Barrios, ce compositeur sud-américain qui est absolument génialissime et qui a aussi œuvré totalement dans le style de Chopin, malgré son époque. Alors voilà, il existe pour guitare des compositeurs qui ont écrit dans le style de, mais les originaux, donc les Beethoven, les Mozart, les Chopin, ne se sont pas tellement intéressés à la guitare. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vous le spécialiste qui me le dira peut-être.
Ah non, pas du tout, Emmanuel Rasfelder, mais c'est vrai que c'est une question aussi peut-être d'époque. C'est un instrument qui est lié très beaucoup au XVIIIe siècle, qui revient au XXe siècle, la guitare notamment, où on parlait de Segovia, et des figures comme ça qui, comme Pablo Casals pour le violoncelle, ont fait revenir cet instrument sur le devant de la scène. Vous, comment vous en êtes venu à cet instrument? C'était vous avez entendu un artiste à la radio ou à la télé, ou alors une tradition familiale ou autre chose?
Oui, exactement, Frédéric. C'est un petit peu une tradition en fait d'une guitare sèche qui était là à la maison. Parce que ce mot a précisément quand même un sens dans la mesure où ça implique de s'accompagner autour d'un feu de camp, autour dans un salon, un feu de cheminée pour chanter des chansons avec des amis. Et dès lors que la guitare sortait de sa petite housse, une guitare sèche vraiment à 100 balles, hein, comme on dit, quand il y avait des amis, de la famille. Des cousins, etc. À ce moment-là, ma mère jouait, mon père jouait, mais juste trois accords de Polnareff, de Johnny ou de je ne sais quel musicien de cette époque des années 70. Et moi, je me rendais compte que par cette guitare, eh bien, ça fédérait, ça générait de la joie, de la bonne humeur. Tout le monde chantait, on s'amusait tous. Nous, on dansait, les enfants, on dansait sur ce qu'ils faisaient rythmiquement sur l'instrument. Donc, c'est ça que je voulais faire, moi, au début, hein. C'était gratter la guitare pour danser, pour chanter, pour m'amuser avec les amis, la famille. Et puis, alors, mes parents m'ont inscrit au conservatoire d'Aix-en-Provence, hein. C'est là que j'ai commencé. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment Aix-en-Provence. On était encore dans les Yvelines à l'époque. J'avais 5 ans et demi, j'étais tout jeune. Et ensuite, j'ai persévéré à Aix-en-Provence. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, bon, bah, ça a été la filière vraiment conservatoire classique. Mais à la base, l'inspiration, elle est née de la convivialité que cette guitare insufflait à notre famille.
Mais c'est quand même un instrument étonnant parce que ils sont rares les instruments qui sont à la fois très populaires, qui peuvent accompagner des chanteurs dans des domaines comme le jazz, le rock ou la variété ou d'autres, et en même temps un instrument savant en musique classique. Il n'y en a pas beaucoup, c'est très étonnant.
Non, c'est amusant que vous releviez ça parce que, en effet, à ma connaissance, il n'y en a que deux, c'est l'accordéon et la guitare. Parce que l'accordéon aussi a des possibilités sonores, musicales absolument exceptionnelles, parce qu'on peut jouer des choses comme de l'orgue, de piano, etc. Et la guitare. Et dans les deux cas, eh bien, effectivement, ce sont des instruments populaires qui doivent le rester avant tout, mais avec, eh bien, cette possibilité que les gens découvrent. Hein. Je m'en rends compte, même encore aujourd'hui, malgré Segovia, malgré la Goya, malgré tout ça, les gens, quand ils viennent au concert de guitare classique et à mes concerts en particulier, parce que voilà, c'est avec eux que je communique après. Ah, ils me disent, bah franchement, vous m'avez réconcilié avec la guitare, parce que pour moi, bon, c'était un peu, vous voyez, Brassens. Je suis encore sidéré de voir encore quand même qu'il y a des gens. Et donc, c'est à chaque fois, comment dire, chaque concert doit convaincre finalement un public de connaisseurs pour la plupart, mais aussi de découvreurs, des gens qui viennent dire, bah, attends, guitare classique, il est tout seul, il chante pas, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec sa guitare? Alors voilà, ça fait plaisir. En accordéon, j'imagine que mes collègues doivent ressentir les mêmes sensations. Se dire, bon, allez, tu vas jouer du Bach avec un accordéon alors que tout le monde a dansé sur Yvette Horner et André Verschuren. Voilà, c'est le mystère de ces instruments pluri-émotionnels.
Emmanuel Rosfelder, vous parliez de Conservatoire d'Aix-en-Provence. Alors moi, en préparant cet entretien, j'ai regardé votre biographie et puis je vois que vous avez étudié avec Alexandre Lagoya. Je me dis, il y a peut-être une erreur compte tenu de votre âge. Et non, pas du tout, vous l'avez connu très très jeune.
Oui, ça a été une rencontre liée à un concours pour rentrer au Conservatoire de Paris. J'avais juste 14 ans et je l'avais vu au théâtre d'Aix-en-Provence quelques années auparavant et je ne savais même pas que c'était lui le professeur du Conservatoire de Paris. Alors voilà, ça a été une rencontre fascinante, extraordinaire. Ça a vraiment façonné mon orientation. Ça a vraiment déterminé mes convictions de faire ce métier parce que je voyais à la fois un homme heureux avec sa guitare et heureux en dehors de sa guitare aussi. Parce que ça, c'est très, très, c'est, pour moi, c'était très important d'être capable de m'en échapper. Parce que. Ben voilà, on reste néanmoins des êtres humains. C'est fragile, un instrument. Le métier de concertiste, on a des ongles, vous voyez, hein, on voit pas trop là en radio, mais ben, les ongles sont longs, ça demande un soin pas possible. On n'est pas à l'abri, je suis nu à vélo, on n'est pas à l'abri de tomber sur la route, d'avoir un accident quelconque. Donc, voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, il faut savoir être heureux aussi en dehors de son instrument. Et la vie m'apporte du bonheur depuis 42 ans maintenant. J'en suis toujours étonné, avec la guitare, mais aussi sans la guitare. Et grâce à la Goya qui m'a tout simplement montré, appris, qu'il était indispensable de vivre heureux avec ou sans son instrument.
Enfin, pour nous, c'est mieux quand vous l'avez. Enfin, c'est aussi bien aussi quand vous ne l'avez pas. Mais on est très heureux quand vous êtes avec votre instrument, Emmanuel Rosfelder. Aussi, vous jouez avec d'autres guitaristes. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui aussi qui paraît encore pas encore plus difficile, mais de tomber juste, d'être avec un ensemble de guitares. Parce que quand vous jouez, par exemple, avec un violoniste, on va en parler, vous allez donner des concerts cet été. Parmi le grand nombre de concerts que vous donnez avec le violoniste Amori Coeto, ce magnifique violoniste qui est maintenant le premier violon du Quatuor Modigliani, quand vous jouez avec d'autres guitaristes, puisque vous avez aussi un ensemble constitué, pour tomber exactement juste, c'est un travail de dingue, ça.
Oui, exactement, Frédéric, c'est tout à fait ça. Avec un violon, quel que soit son niveau et son excellence, la guitare est quand même un petit peu réduite au niveau de l'accompagnement. On accompagne quand même la mélodie qui est exécutée par le violon. En revanche, quand on est en quatuor de guitare, eh bien là, on est confronté à une mélodie qui va circuler d'une guitare à l'autre. Donc, on alterne tantôt l'accompagnement, tantôt la partie principale. Et donc, dans le travail de l'homogénéité, effectivement, c'est diabolique. On a tous un son un peu différent. Donc, à travers la mélodie, à travers l'inspiration de chacun, il va y avoir des petites nuances de tempo, d'intensité sonore, de phrasé. Et donc, ce sont à chaque fois les trois autres qui restent, ou les deux autres, s'il y en a deux qui sont à la fois en mélodie, qui doivent s'adapter. Alors là, c'est un travail qui bouge tout le temps. C'est à chaque répétition, on découvre, on redécouvre les qualités et les faiblesses de chacun. Alors, le but ultime, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun joue avec ses qualités, donc les parties qui représentent le mieux les qualités, et d'effacer, de gommer les défauts de chacun, parce qu'évidemment, on a tous des défauts, des petites faiblesses, et ça, il faut les gommer. Et en quatuor de guitare, c'est pas évident, ça s'appelle vraiment, alors là, un travail de minutie dans la transcription, parce que le programme, évidemment, c'est que de la transcription. On fait le deuxième mouvement d'Alain Ruiz, on fait le Boléro de Ravel, tout ça, évidemment, en miniature. On fait des danses espagnoles de De Falla, on joue des pièces baroques aussi de Vivaldi, etc. Bref, on joue plein de choses très, très surprenantes, qui ont de Carlos Gardel, de Piazzolla, et tout ça, ce sont des transcriptions sur mesure.
Mais vous parliez de sonorité, vous jouez avec des musiciens qui n'ont pas forcément un instrument qui a été fabriqué par le même luthier que vous. Et ça fait des grandes différences ?
Un petit peu quand même. Alors je me réfugie toujours derrière la personne qui est allée voir iFets à la fin d'un concert et qui lui a dit « Maître, vous avez un violon exceptionnel ». Et iFets qui se penche sur sa boîte, il prend son violon, il la met à son oreille, il écoute et il dit « Je n'entends rien ». Alors oui, bon, évidemment, un bon instrument aide. Mais moi, j'ai vu la Goya. Moi, je ne me rends pas compte quand je joue sur une guitare à l'autre. On me dit que j'ai toujours c'est la même chose qui sort. Et je l'ai vu de la Goya. C'est juste peut-être l'intensité sonore qui varie selon une très bonne guitare d'une moins bonne. Voilà, qui a des notes peut-être plus longues ou plus courtes que d'autres. Mais on peut toujours compenser avec le vibrato. Et moi, j'ai vu la Goya à 2 mètres de moi jouer avec des guitares des élèves, des fois des crêpes. Et il avait tout le temps sa sonorité, son empreinte, il la mettait comme dans du ciment frais, instantanément sur la guitare. Quelle que soit la guitare, une guitare à 100 balles, il la faisait sonner comme ses guitares de concert. Évidemment, la différence, ça va s'entendre dans une grande salle. Il y a des guitares qui sont de meilleure facture et par conséquent, qui vont sonner plus loin, au 15e rang, 20e rang. La définition du son sera encore très très précise, alors qu'une guitare peut-être moins bonne va se perdre au fur et à mesure de la distance. Voilà.
Emmanuel Rosfelder, donc vous jouerez le 5 août prochain dans le cadre des 62e nuits de la Citadelle à Sisteron. Vous arrivez comme ça tout au long de l'été dans des lieux très très différents, puisqu'après vous allez jouer dans bien d'autres festivals. Et puis on peut aller sur votre site internet pour voir quels sont ces concerts. Et puis les musicales embryonnées aussi, on va en parler. Vous arrivez comme ça dans des salles complètement différentes, avec des acoustiques complètement différentes. C'est à chaque fois un travail énorme pour s'adapter.
Oui, il y a des concerts stressants et des concerts plus détendants. Bon, voilà, dès lors qu'on est dans une chapelle, 200 places avec une acoustique extrêmement flatteuse, bon, voilà, là, on se dit, ça va être génial parce qu'on va pouvoir vraiment prendre un peu plus son temps, peut-être faire utiliser des tempi peut-être un petit peu plus modérés parce qu'on a une acoustique favorable. Et puis d'un coup, ah, on va être dans un contexte en plein air. Hein, comme la nuit de la citadelle. Là, c'est un exercice fantastique. Je sais que Edith, que j'embrasse, est un peu inquiète. Elle se dit, mais quand même, la guitare là-dedans. Vous inquiétez pas, Edith, vous inquiétez pas. Il y a des murs, on est entouré. Un plein air sans murs, c'est catastrophique. Un plein air avec des murs, je suis sauvé. On n'a pas d'ac une acoustique exceptionnelle, comme dans une église, mais quand même, le son s'appuie sur les murs et du coup, crée quand même une sorte de réverbération. Réverbérance, je ne me rappelle jamais comment on dit. Et donc voilà, donc effectivement, bon, bah, il y a une vingtaine, un peu plus de 22 ou 25 concerts cet été. Évidemment, on va se retrouver dans de magnifiques endroits. On va se dire, ah, c'est très très joli, mais l'acoustique, elle n'est pas géniale. Et puis c'est tout. Et ben c'est pas grave. On sort la guitare et puis on ferme les yeux, et puis on écoute et on adapte son jeu, sa sonorité en fonction de l'acoustique.
Emmanuel Rosfelder, oui, bien sûr, la réception par le public, ça influe aussi. Donc, on parlait de ces musicales embryonnais, un festival organisé par la pianiste Julia Steinbach. Une pléiade, elle fait venir dans ce lieu très intime des artistes incroyables, vous, Nelson Frère, elle, bien d'autres. Et là, le répertoire s'organise en ce moment pour ces concerts qui seront donnés à la fin juillet, début août. Vous jouerez à la fois en récital, en musique de chambre.
Oui, c'est ce qu'elle appelle un petit peu des concerts un peu en résidence, c'est-à-dire que les artistes arrivent dès les premiers jours, sur 5-6 jours à peu près, et puis c'est parti. Ce sont des répétitions, ce sont des concerts qui se préparent sur place finalement. Hein. Il y a 2 jours off ou un jour et demi off, et là, il faut arriver déjà avec eh bien, son travail personnel absolument ficelé au cordon, et puis ensuite, hop, la rencontre avec les autres artistes. S'effectue comme ça en quelques heures. Il faut bâtir un programme et donc c'est une résidence artistique qui amène très souvent, qui conduit très, très souvent à des moments extrêmement forts émotionnellement parce qu'en étant immergé, on n'arrive pas à 3 heures avant le concert, même, mais on est immergé vraiment dans un contexte. On a créé vraiment des affinités avec les organisateurs, avec le public aussi, parce qu'on croise finalement chez le boucher, chez le boulanger, etc. Et du coup, ça crée une ambiance, une convivialité extraordinaire. Et en général, alors là, je vais découvrir, c'est la première fois que Juliana m'invite, j'en suis ravi, et je la remercie encore. Je vais découvrir le public de ce beau lieu que je ne connais pas encore.
Et nous, on apprend que même les artistes, les grands artistes, vont chez le boucher et le boulanger. Grâce à vous, Emmanuel Rosfelder, vous n'êtes pas faite que de matière immanente et en dehors du concert. Et alors, vous allez aussi jouer avec un merveilleux musicien qui est Amaury Coëtto, donc on le disait, qui était violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et puis qui maintenant est premier violon du Quatuor Modigliani. Donc là, c'est un répertoire à la fois original et puis des transcriptions, puisqu'il y a des œuvres de Paganini. Et vous avez transcrit aussi des œuvres de Kreisler?
Oui, tout à fait, Frédéric, des œuvres de Paganini, alors originales, hein, parce que Paganini aimait beaucoup la guitare. Il disait, je suis le maître du violon, mais la guitare est mon maître. Alors il a rencontré une guitariste dont il est tombé amoureux. Et puis il a essayé de travailler la guitare pour être aussi bon qu'elle. Et puis bon, il n'y est pas trop arrivé. Alors il a écrit des pièces pour violon et guitare qui sont malheureusement du coup très déséquilibrées. C'est très souvent la partie guitare qui est réduite à sa plus simple expression d'accompagnement pour pas que la guitariste brille trop à ses côtés. Et lui, il s'écrivait des parties violon exceptionnelles pour pouvoir vraiment et briller. Alors c'est pas grave, on fait quand même cette magnifique sonate centonée et puis ce petit cantabile où la guitare vraiment accompagne ce magnifique violon, ce magnifique violoniste qui est Amaury Coëtto, effectivement. Puis ensuite on va attaquer des transcriptions de Piazzolla, de Kreisler, de Manuel de Falla. Alors là, ce sont des pièces où effectivement là il y a davantage de dialogue entre le musicien soliste violoniste et un petit peu l'orchestre. Alors la guitare. Comme je disais tout à l'heure, c'est un instrument très orchestral. L'orchestre m'inspire beaucoup dans les transcriptions. Et je tâche, à la fois dans l'écriture et dans l'interprétation, de recréer, par exemple, on joue la méditation de Thaïs, recréer le son de la harpe au début, créer peut-être un son davantage percussif ou de cuivre dans les manuels des Falla, en allant chercher des sonorités proches un peu du flamenco, quelque chose d'un petit peu rugueux. Alors là, le violoniste, il s'amuse beaucoup parce que contrairement au piano, qui est un instrument merveilleux, mais qui reste quand même dans une sonorité pas très 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 éloignée, on reste quand même dans un son de piano. Il y a une mécanique, il y a des marteaux, il y a quand même quelque chose qui... On ne peut pas faire un son extrêmement varié. Avec la guitare, oui, on peut faire le roulement de tambour, on peut faire des harmonies qui rappellent de l'orgue, on peut faire du clavecin. Elle est pratiquement à l'identique avec un son extrêmement ponticello, staccato à outrance. On peut faire des basses qui ressemblent à des pizzicato de violoncelle. Enfin, vraiment, c'est un instrument très orchestral. Et à travers ces transcriptions, eh bien, je me suis amusé justement à recréer un petit peu cette ambiance que le violoniste connaît avec l'orchestre.
Vous parlez d'orchestre, en vous écoutant Emmanuel Rosselier, je pensais à des œuvres orchestrales dans lesquelles la guitare n'est pas là pour jouer en qualité de, enfin dans un concerto, mais des œuvres où la guitare est intégrée.
C'est-à-dire que la guitare apparaît dans l'orchestre de façon extrêmement rudimentaire, notamment chez Rossini. Alors là, c'est le, je crois, à ma connaissance, c'est l'un des seuls que je connaisse qui inclut la guitare. Et puis, il y a peut-être aussi. Je me demande si c'est pas. Non, la canzonetta chez Don Giovanni, c'est. Je pense pas que ce soit la guitare qui la fasse, mais peut-être encore chez Mozart. Peut-être il a fait une petite guitare à un moment donné, Mozart. Mais enfin voilà, c'est très rare. Pourquoi? Parce que bah là, on est battu sur le plan sonore. On est battu par la masse volumique de l'orchestre. Même le piano, hein, les œuvres comme la troisième symphonie de Saint-Saëns avec orgue et piano. Le piano, ça fait un peu bizarre au milieu de cet orchestre. C'est pas. Ça sert pas beaucoup en fait. Elle ne servirait à rien. Elle ne servirait à rien parce qu'on aura envie de l'entendre. Donc, tiens, il y a. Parce que c'est le plus bel instrument du monde, naturellement. Donc on aura envie de l'entendre. Mais elle serait couverte par les autres, hélas.
On parlait du répertoire. Vous avez déjà enregistré 8 CD, Emmanuel Rosselder. Le dernier, Virtuoso, donc consacré des œuvres de Paganini, de Merz, de Turina, Moreno, Toroba, Mozzani et Sagreras. Turina, il vous a laissé un magnifique répertoire.
Alors voilà, Turina, l'exemple encore de ces musiciens qui n'étaient pas du tout guitaristes et qui, grâce à la présence d'Andrés Segovia, se sont tournés vers la guitare. Parce que Segovia était assis avec sa guitare, Turina était au piano, il mettait la partition sur le piano, sur le pupitre, et puis Segovia tâchait de jouer ce qui était jouable et de dire à Joaquin, non, là, on peut pas, là. Alors il changeait les notes comme ça. Donc c'était vraiment un travail de sur-mesure, composé pratiquement au piano, d'abord par Turina, et ensuite adapté en temps réel par Segovia. Segovia a inspiré immensément de compositeurs à écrire pour la guitare. On lui doit immensément de belles pièces et notamment, bien sûr, cette très très belle sonate de Turina.
Et vous travaillez avec des compositeurs sur, parce qu'on parlait de la transcription, mais ça c'est vous ou d'autres guitaristes qui font un travail de transcription, mais des compositions originelles par des compositeurs.
Un petit peu, ça se fait de temps en temps, mais pas assez à mon goût. C'est peut-être moi aussi qui suis un petit peu réfractaire vis-à-vis parfois du côté abstrait de la musique d'aujourd'hui. Ça ne me touche peut-être pas suffisamment pour que je fasse la démarche d'aller vers les compositeurs. Alors parfois, je rencontre un compositeur. Comme Thierry Escaich. Alors là, on a échangé un concert ensemble. Bon, mais il n'a pas composé une pièce pour la guitare pour autant. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il a fait des transcriptions magnifiques pour qu'on puisse jouer ensemble. Je rencontre parfois des compositeurs de musique de film. J'avais rencontré Vangelis, par exemple, une fois. C'était très étonnant. J'ai rencontré Vladimir Kosma. J'ai rencontré des gens comme ça. Mais bon, voilà, encore une fois, il n'y a pas eu de. Il y a eu une petite pièce ici de Vangelis quand même qu'on mais je sais pas c'est puis moi je n'ose pas trop jouer ce genre de répertoire. On va dire ah bah non mais la musique de film c'est quand même un petit peu voilà c'est peut-être dégradant je ne sais pas je suis un petit peu toujours un peu gêné quand on me pose cette question parce que Je n'ai jamais réellement joué de pièces contemporaines d'un compositeur vivant que j'aurais rencontré. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais j'ai bon espoir. Mais il faudrait que cette pièce, effectivement, me touche parce que je ne pourrais en aucun cas jouer quelque chose cacophonique. Quinca, pardon. Je dis souvent que, voilà, ou 2D. Enfin, voilà, ça, rien que d'y penser, ça commence à me faire transpirer. Je peux pas. Le côté abstrait dans la musique, j'avais entendu une fois Pierre Arditi qui disait c'est comme si on faisait une pièce de théâtre qu'en onomatopée. Bon, voilà, ça marcherait pas. Alors pourquoi ça marchera en musique? Je ne peux pas exprimer quelque chose avec ma guitare qui ne veut rien dire.
Je voulais pas vous gêner par ma question, Emmanuel Rosfelder, mais c'est vrai que votre répertoire est déjà tellement immense et part déjà dans plein de directions différentes. On parlait du travail avec Amori Koeto. Pourquoi la guitare et le violon, ça va tellement bien ensemble, ou le violoncelle et guitare?
Bah parce que justement, ce sont des instruments très, très différents. Il y a l'archet, il y a la corde frottée, donc il y a le son qui continue. On a besoin de son en continu. Nous, on a un son qui s'arrête, un petit peu comme le piano. On tape sur la touche, et puis la note, voilà, tac, il y a une percussion, puis la note cesse. Alors, on a besoin d'un instrument qui la prolonge, cette note. Alors, ça marche très bien avec la flûte, le violoncelle, le violon, la clarinette aussi. Je joue avec mon ami très souvent Florent Héo, qui vient manger ce soir à la maison. Voilà, donc ça c'est formidable. Clarinette, guitare, ça marche très bien. Le hautbois aussi, ça marche très bien avec la guitare. Voilà, tous ces instruments avant et ces instruments à cordes frottées, ça marche. En revanche, la harpe, le piano, le clavecin, la guitare, bah, ça se court-circuite. Ça ne marche, ça ne fonctionne pas ensemble. Et ce qui marche ensuite ensemble, ce sont les guitares entre elles. Alors là, deux ou trois ou quatre guitares, c'est fantastique. Parce que là, on est vraiment dans un orchestre symphonique.
Emmanuel Rosfelder, le 5 août, vous jouerez donc ces deux concertos, deux œuvres concertantes de Rodrigo, aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Genève et Harry Van Beck. Il y a aussi un immense compositeur qui a beaucoup composé pour la guitare et qui vous a fait un très beau concerto, Civil à Lobos.
Ah oui, étant Villa-Lobos, on lui doit un superbe concerto, beaucoup de pièces aussi pour guitare seule. Un personnage emblématique du Brésil qui a beaucoup œuvré pour faire avancer la musique classique dans son pays, qui a vraiment popularisé la musique classique en jouant gracieusement comme ça sur les places des villages, faisant les répétitions générales en plein air devant tout le monde, et ensuite le concert le soir à l'intérieur du théâtre et avec les places payantes. Mais voilà, il a donné accès à beaucoup de gens à l'écoute de ces musiques, et pour avoir fait moi-même une tournée au Brésil, j'ai pu mesurer vraiment la popularité, la notoriété de ce compositeur qui est mort en 1959, si je ne me trompe, et qui a vraiment laissé derrière lui des pages de musique fantastiques, et notamment pour la guitare, avec une quinzaine de pièces en solo, enfin plus que ça même, parce qu'il y a 12 études, il y a la suite populaire brésilienne qui en compte 5, plus encore les 5 préludes, voilà, plus d'une vingtaine de pièces, et ce fantastique concerto.
Mais c'est étonnant justement parce qu'on parle d'œuvres du XVIIIe siècle, on parle d'œuvres du XXe siècle ou du XXIe par la transcription. Et il y a quand même une éclipse au XIXe siècle de cet instrument. Quand on pense à tous les grands compositeurs romantiques, Schumann ou Brahms ou d'autres, sont pas penchés vers cet instrument qui est revenu genre, justement avec Segovia ou d'autres. Et comment on explique cette éclipse?
Oui, je ne sais toujours pas. Une sorte de pénurie d'interprètes, peut-être. Peut-être une pénurie d'interprètes. C'est vraiment. Chaque guitariste, finalement, était également compositeur. Donc il y avait une sorte de huis clos, finalement, parce qu'il composait pour son propre instrument. Puis voilà. Est-ce que ça se diffusait déjà à l'époque de façon importante? Je ne sais pas. Combien de guitaristes étaient capables de jouer les œuvres de Mertz ou de Fernando Sor? Ou de Aguado, ou de Carulli, ou de Giuliani, ou de. Ben, je ne sais pas, peut-être très peu. Et du coup, ça paraissait être inaccessible. Peut-être parce que Berlioz, même Beethoven, ont vanté magnifiquement les qualités de cet instrument, mais ils n'ont rien pu composer pour celle-ci. Alors, ça, c'est quand même très dommage, mais c'est comme ça.
Enfin, heureusement, il reste un énorme répertoire, puis un répertoire sans fin. Il y a des projets, là, on peut parler de projets de transcription, d'œuvres qui vous tiennent à cœur, Emmanuel Rosfelder, ou alors, je ne veux pas vous cueillir à froid comme ça.
Mais je viens de sortir des pièces de Paganini, là, le 24e Caprice, la Campanella. Je viens de rencontrer récemment cette magnifique soprano Raquel Camarinha, avec laquelle nous avons joué quelques pièces. J'ai rencontré également une magnifique jeune soprano qui s'appelle Julia Jérôme, avec laquelle j'ai joué quelques pièces au Versoise pour la présenter. Au public, et elle a conquis tout à fait. Voilà, donc peut-être avec la voix humaine. Et puis j'ai la chance aussi cette année de jouer à l'Opéra de Vichy, avec lieu où j'ai enregistré mes concertos avec Harry, avec un fantastique ténor. Donc là, pareil, je me suis penché vers un programme de transcription de ténor. Donc là, on a fait le répertoire un petit peu de Pavarotti avec les fantastiques. Mélodie italienne, et puis voilà, donc ça m'a demandé beaucoup de travail quand même, parce qu'en général c'est deux guitares, hein. Roberto Lagna a enregistré toutes ces mélodies avec ses frères qui étaient deux guitaristes, et moi j'ai fait tout ça pour moi tout seul avec la voix. Donc voilà, on va tâcher de faire donc voilà, donc mes projets, ils sont dans la rencontre aussi avec de fantastiques musiciens, et peut-être faire quelques disques avec eux, parce que finalement je n'ai jamais encore partagé de disques avec d'autres musiciens, violon, violoncelle, chanteuse, chanteur. Voilà. Donc là, c'est peut-être dans cette direction que je vais me pencher maintenant, que j'ai un petit peu. Il en reste encore naturellement, mais après 5 disques en solo, plus un disque avec les deux concertos de Rodrigo, je ne dis pas que je suis un peu essoufflé, mais ça fait quand même plus de 6 heures de musique où la guitare est au premier plan. Il y en a quelques heures, peut-être encore des pages pour guitare, mais il n'y en a pas une vingtaine non plus. Donc il va falloir que je me dirige vers des pièces de partage avec d'autres musiciens.
Eh ben, on a hâte d'écouter ça. Pour terminer cet entretien, Emmanuel Rosfelder, il y a quelque chose d'assez fascinant quand même pour nous, auditeurs, quand on voit d'abord, enfin, pour utiliser un cliché, mais tant pis, un pianiste, on le voit de profil, un violoniste aussi peut se tourner. Il y a peu d'instrumentistes, en fait, qui font face au public comme le guitariste. Bon, il y a le harpiste aussi qui joue, mais il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de récital de harpe seule, s'il y en a quand même. Mais vous, c'est quand même quelque chose, vous vous retrouvez face au public comme ça, avec votre instrument qui n'est pas la taille d'un piano, encore un cliché débile, mais c'est quand même quelque chose d'étonnant pour nous.
Oui, d'autant que, les gens sont toujours fascinés par l'aspect visuel. La guitare fascine dans la manière dont on la touche, parce que, bah oui, effectivement, le violoncelle, la harpe, il est un peu caché quand même, le harpiste, et puis l'accordéon. À part ça, effectivement, ils sont tous de côté, ou les instrumentistes avant. Mais les instrumentistes avant font toujours des tronches pas possibles. Enfin, visuellement, c'est pas exaltant, il faut le reconnaître, faut pas se mentir. Le violoniste, voilà, le violoncelliste, on voit cet effort de l'archet, cette précision, cette inspiration. Nous, les gens regardent les doigts, et notamment les doigts de la main droite, regardent ces ongles qui vont caresser les cordes. Ce déplacement de la main droite qui passe tantôt près du chevalet pour faire des sons très métalliques, tantôt ils vont aller sur la touche pour faire des sons très ronds, le vibrato de la main gauche, les facéties mimistiques du guitariste qui va faire des choses un peu drôles avec en imitant des sonorités de roulement de tambour. Des fois, je vois les gens qui sont là éberlués, ils cherchent où c'est qu'est caché le tambourin. Enfin voilà, c'est très visuel, c'est... Je suis toujours partagé par le fait de dire aux gens, essayez de vous placer assez près pour bien voir, et en même temps, malheureusement, un peu plus loin, la sonorité sera encore plus pure, parce qu'on échappe à l'attaque de la corde avec les ongles, et du coup au petit bruit, au petit cliquetis parfois de l'ongle contre la corde. Mais finalement, les gens l'oublient très vite, je m'en suis rendu compte, et je tâche. Alors ça, c'est un travail dans lequel je suis quand même assez fier, parce que ça a toujours été pour moi quelque chose d'important, d'éviter tous ces bruits de main gauche, vous savez, gz, 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 des doigts qui glissent contre les cordes. Donc j'ai beaucoup travaillé pour éviter tout ce bruit, et les gens en sont très souvent contents. Pour ceux qui ont déjà écouté des guitaristes, me disent « Oh là là, on n'entend pas du tout vos bruits de la main gauche ». Et du coup, ça donne quand même une transparence dans la sonorité qui est très importante. Voilà, donc c'est visuel. Et aussi sonore, mais c'est très visuel, la guitare.
Et au niveau de l'instrument, alors votre instrument, c'est un instrument contemporain?
Alors oui, les guitares vieillissent plutôt mal, hein, contrairement au violon, au violoncelle, etc. C'est la table d'harmonie qui supporte les 60 kilos de tension des cordes. Et de ce fait, eh bien, la table d'harmonie vieillit, se déforme et perd de sa puissance après 15 ans, 20 ans, ça va assez vite. C'est un petit peu comme le piano finalement, hein. C'est un peu le même principe, hein. Les vieux pianos de 60, 70 ans d'âge ne sont pas tellement perdent de leur puissance. Et moi, j'utilise donc une guitare australienne, magnifique, qui utilise ce luthier fantastique, qui utilise un petit peu des matériaux un peu plus modernes, comme de la fibre de carbone, pour renforcer justement cette étape d'harmonie qui est vouée à se déformer. Et bien, grâce au carbone, il semblerait qu'après 20 ans, 30 ans d'âge, ça reste tout le temps absolument bien en place. Et ça, c'est peut-être l'avancée du 21e siècle dans le domaine de la lutherie guitare.
Bien, Emmanuel Rosselder, j'espère que j'aurai le plaisir de vous réinviter avant 30 ans et avant de savoir que la pérennité de cet instrument. En tout cas, il y a tous ces concerts que vous donnerez cet été, et puis par la suite, et tous ces festivals, à commencer par ces nuits, la Citadelle assisteront, puis il y a Musique Embryonnaise, il y a ces concerts avec Amoricco et tout, avec ses chanteurs, enfin, des dizaines de concerts. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci infiniment de m'avoir fait venir, c'était un plaisir.